ici ce soir pour entendre ces témoignages et les différentes expressions d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a été pour eux durant cette année écoulée. Et je veux joindre mon témoignage avec eux. Je pensais les sœurs là-derrière rendant témoignage du pain sur l'eau, et ensuite frère Slaughter, frère Graham parlant de quand tous les rouages de la vie mortelle s'immobiliseront. Peut-être c'est incompris ici-bas, mais là devant le trône, Dieu connaît tout au sujet de toutes choses. Ainsi, nous sommes simplement ici ce soir, comment dirais-je, je ne crois pas au fait de tourner une nouvelle page ou quelque chose comme ça, et puis vous la tournez en arrière le jour suivant. Mais si nous venons pour nous donner à Dieu, pour l'adorer et le remercier pour ce qu'il a été pour nous et lui demander de continuer d'être avec nous, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Je suis un peu fatigué ce soir. J'étais avec des gens hier soir, des invités, et je suis resté debout un peu longtemps, et aujourd'hui, nous étions sortis pratiquement toute la journée. Et donc, je me sens un petit peu fatigué, et je ne resterai pas très longtemps debout ici. Mais je veux donner la chair ensuite à frère Funk. Il est notre orateur, et ensuite, frère Woods, je pense, va suivre. Et alors, ainsi donc, s'ils resteront tous... Il a dit aujourd'hui que je ne devais pas dire cela ici, vous voyez, mais je l'ai fait. Ainsi, j'ai frère Funk assis là derrière, il secoue la tête. C'est une petite plaisanterie pour lui, frère, mais c'est juste, certainement, ils ont le privilège de suivre dans quelques minutes. Ainsi, nous avons beaucoup d'orateurs ici ce soir, et il nous reste 3 heures, et alors nous essaierons de nous dépêcher aussi vite que possible. Mais parfois, juste ces petites choses que je désire dire en ce moment, c'est concernant le témoignage de la sœur là-bas, sœur Leppard, je crois, c'est son nom. J'ai instauré un nouvel ordre ici, comme vous le savez, il y a quelques semaines, à propos des appels des gens au bureau. Et alors, frère Cox et les autres me retransmettront le cas, quoi que ce soit, et pour me laisser aller comme je me sens conduit à aller. Et oh là là, c'est la façon de faire. L'autre matin, en parcourant les différents appels, il y avait sœur Lake et son garçon qui avait un accident. Je crois que frère Cox m'en avait parlé. Et on avait enlevé la rate et il était étendu là au point de mourir. Et un autre frère, avec lequel j'étais sorti dans la montagne cette année au cours d'un voyage, étendu là avec les intestins en hémorragie, peut-être un cancer. Et en Californie, oh, partout, des appels de différentes personnes malades. Et j'étais sorti pour prier, je suis rentré, et ma femme m'a dit que frère Slaughter avait appelé quelque chose à propos d'une petite sœur Slaughter, à propos d'une petite fille qui était ici l'autre dimanche. Je suis entré, je me suis assis, je pensais, oh, cher Dieu, j'ai tout ceci, je priais pour eux tous, et que veux-tu que je fasse? Et je continuais d'entendre au sujet d'un petit bébé. Eh bien, je retournais pour voir ce que nous avions au sujet d'un petit bébé, et j'ai appelé sœur Cox pour vérifier s'il y avait quelque chose à propos d'un petit bébé. Personne ne semblait connaître quoi que ce soit à propos d'un petit bébé. Ce n'était pas une vision, mais simplement une pression dans l'esprit d'aller vers le petit bébé, un petit bébé malade. La seule chose que je trouvais au sujet d'un bébé, c'était un bébé au Kentucky. Mais ça ne semblait pas être le cas, d'une manière ou l'autre. Et je pensais qu'une vision allait peut-être se manifester. Mais ce ne fut pas le cas. Et je suis retourné dans ma chambre pour prier. Et je pensais, qu'en est-il de ce bébé? Y a-t-il manière où je puisse penser à un bébé? Et dimanche passé ou dimanche d'avant, j'étais assis là et une petite fille est venue derrière moi me murmurer à l'oreille, priez pour ma petite sœur, un bébé. Et c'était une petite fille, Leppard. Elle est peut-être ici ce soir, je ne sais pas, une petite gamine, une belle petite fille. Je me suis retourné et j'ai dit, très bien, ma petite chérie, comme ça. Ainsi, j'ai incliné la tête et j'ai commencé à prier pour le bébé. Et puis j'avais oublié. Et aussitôt, à ce moment-là que c'est revenu à la pensée, quelque chose est arrivé. Je savais alors que c'était Dieu. Alors, j'ai été demandé à Meda où ils habitaient. Elle ne savait pas exactement. Ainsi, nous avons regardé dans le nuaire pour avoir son numéro. Et j'ai dit qu'ils avaient un bébé malade il y a une semaine ou une dizaine de jours. Un bébé malade. Et il y avait quelque chose à ce sujet. Regardez, j'ai téléphoné là-bas et personne ne répondait. J'ai appelé Mme Cox ensuite et j'ai eu la dame ici, sa mère. Ainsi, j'ai téléphoné à la maman et je lui ai dit ce qu'il en était. Elle est peut-être ici. Je suis désolé de ne pas reconnaître cette femme. Je connais peut-être son visage. Elle m'a dit que le bébé était à l'hôpital dans un état sérieux et qu'il recevait une transfusion sanguine à ce moment-là. J'ai dit, « Sœur, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est une vision maintenant parce que ce n'est pas le cas, mais il y a quelque chose en moi qui me pousse vers ce bébé. » Il semble, j'ai simplement ce bébé devant moi. J'ai dit que je n'allais pas aller maintenant, car il faut tout un temps pour faire la transfusion. Je crois qu'ils la font dans la tête, donc je sais que c'est très douloureux. J'ai simplement attendu et j'ai prié pour le bébé et je me suis préparé. Je pensais, c'est l'endroit où le Seigneur me conduit. Puis je me suis précipité à l'hôpital et j'ai demandé pour voir le bébé. Ils m'ont envoyé là où se trouvait le bébé. Et dans la chambre, j'ai rencontré la mère qui est ici maintenant. Et elle m'a dit que sa maman l'avait contactée une heure auparavant, quelque chose comme cela, pour lui dire que le Seigneur me poussait à aller vers ce bébé. Et quand elle est retournée vers le lit, le bébé était en train de rire et de gigoter. Je suis arrivé là et le petit gars était simplement en train de se démener, de rire, de boire son biberon tout aussi normalement que n'importe quel enfant. J'ai simplement posé la main sur le petit gars, vous voyez, et je l'ai béni et puis je suis sorti et j'ai entendu la mère dire il y a quelques instants qu'il l'avait ramené à la maison. C'était hier quand c'est arrivé et aujourd'hui le bébé est à la maison en bonne santé. Ça, c'est mieux que 100 appels que je ferai moi-même. Rester tranquillement devant le Seigneur afin qu'il puisse simplement dire où aller et chaque fois, c'est parfait. C'est le Seigneur qui conduit. Des gens disent, venez ici, frère Branham, où allez-là? Ça vous met dans une telle agitation vers celui-ci, celui-là, celui-là, et que Dieu ne peut pas vous parler. Si vous voulez seulement vous asseoir et dire, je te remercie, Seigneur, déposez ça devant le Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu sais que je suis ton serviteur. Voyez, le Seigneur, sachant que j'irai là, aussitôt qu'il a parlé à mon cœur, il a guéri le bébé avant même que j'y arrive. C'est vrai, voyez. Oui, monsieur. Voyez, ce n'était pas moi qui suis allé là. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que c'était, frère Branham? Voyez, nous avons des dons dans le corps de Christ. Alors, le Saint-Esprit lui-même, sachant ce que c'était, l'intercession là-bas, le Saint-Esprit me pressait vers ce bébé. Et aussitôt que j'ai prié pour le bébé, à la maison même, et je suis allé vers le bébé, car c'était pour accomplir ce qu'il a dit, le Saint-Esprit faisant des intercessions là, sur les choses que nous ne pouvons même pas comprendre. Voyez, n'est-il pas merveilleux? Je vous le dis, mes amis, ce soir, j'ai tellement de choses au sujet desquelles être reconnaissant. Je ne sais simplement pas comment commencer, et je n'essaierai même pas. Je ne sais pas, je vais simplement lire quelques paroles ici dans les Écritures et parler sur elles pendant quelques minutes, le Seigneur voulant. Mais d'abord, je désire exprimer ma gratitude à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a sauvé et m'a lavé dans son propre sang, et m'a donné cette grande et glorieuse espérance qu'un jour, je le verrai face à face. Et je ne me tiendrai pas là en condamnation parce que son sang m'a déjà racheté. Et je suis racheté ce soir par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'il m'a donné, d'être concitoyen du même royaume auquel vous allez tous, et ensemble, nous sommes cohéritiers avec lui dans la gloire. Quelle chose merveilleuse! Et j'étais assis hier soir parlant à quelques personnes qui sont présentes maintenant. Et aujourd'hui, là, en dessous de, vers Elisabeth, chez un frère où nous étions assis à table, en train de dîner aujourd'hui, et nous parlions des faits fondamentaux ou de l'Évangile fondamental que nous avons et quelle réalité, au-delà de toute ombre de doute, nous n'avons pas de place du tout pour un quelconque doute. Ce tabernacle et ces gens, ces membres et les gens de Jeffersonville et des environs se tiendront au jugement. Si nous ne sommes pas sauvés, nous nous tiendrons absolument sans excuse. Il y a quelque temps, comme jeune prédicateur, quand est venu mon premier réveil, je l'avais tenu ici au coin, là où il y avait un projet de construction, dans une tente. J'ai baptisé un groupe là-bas, au fleuve, ce dimanche après-midi, quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition en public, en confirmation du message que je devais annoncer. Et c'était une lumière qui est descendue du ciel qui se tenait là. Il y a peut-être dans ce tabernacle, ce soir, des gens qui étaient là et qui ont vu cette lumière. Et je commençais à l'annoncer, et ainsi de suite. Et vous connaissez tous l'histoire, comment elle s'est déroulée. Et les gens pouvaient s'en éloigner en disant parfois, c'est de l'imagination, quitter la réunion, où les gens pouvaient le voir. Ils s'en allaient en disant, j'ai vu cela. Et les autres disaient, bien moi je ne l'ai pas vu. Bien sûr, naturellement, Dieu laisse voir qui il veut. Quand les mages suivaient l'étoile, il n'y avait pas un point dans l'histoire ou l'observatoire ou rien. On observait même l'heure par les étoiles, mais personne n'avait vu cette étoile sauf les mages, vous voyez, c'est vrai, parce qu'ils s'y attendaient. Ils attendaient de la voir, et elle les guida jusqu'au Christ. Et pourtant, elle est passée au-dessus de chaque observatoire, tandis que les gens regardaient dans les cieux pour dire les heures et ainsi de suite, mais personne ne vit cela sauf les mages, car c'était destiné pour eux de le voir. Et si Dieu vous destine à voir quelque chose, vous le verrez. Élie se tenait là à Dothan, à l'époque, et il regardait, et les serviteurs regardaient, il disait, « Oh, regarde, les Assyriens étaient, avaient leur camp tout autour, et Élie a dit, il y en a plus avec nous qu'il y en a avec eux. » Il regarda autour, il ne pouvait rien voir. Il n'y avait que Élie qui était debout là. Alors il dit, « Oh, ouvre les yeux de ce jeune homme, Seigneur. » Et alors, avec les mêmes yeux, quand il ouvrit les yeux, autour de ce prophète se tenaient des chariots de feu et des chevaux de feu. Vous voyez, c'est quelque part, et nous savons que sa présence est avec ses enfants qui croient. Je parlais, ma femme était assise dans la chambre et nous parlions de cette même lumière où cela est venu et où on a pris sa photo. Et simplement en se référant ce soir à ce phénomène, je crois qu'au moins une, deux ou trois personnes, je pense, se trouvent maintenant dans le bâtiment. David, là derrière, frère Woods et sœur Woods, étaient à Houston, au Texas, quand Dieu a permis qu'elle soit prise. Maintenant, si vous leviez et que vous regardiez à cet ange en train de tournoyer, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais vu cela. Voyez, cette lumière, une colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël, qui vint dans les prisons avec Pierre et le délivra de la prison, ce même ange du Seigneur. Et la voici, après toutes ces centaines, oui, des milliers d'années, elle est encore ici avec nous maintenant. Vous voyez, on a pris sa photo, ce tenant là où j'étais. Non pas pour moi, mais pour l'Église, pour le corps des croyants, voyez-vous, c'est pour tout le monde. Maintenant, remarquez. Je crois que c'était réellement une colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Une colonne de feu. Et je crois réellement que cette lumière est venue dans la prison où Pierre se trouvait. Ne croyez-vous pas ce témoignage? Je le crois de tout mon cœur. Plus que je crois que mon nom est William Branham. Je crois cela, voyez. Je crois cette histoire. Mais cependant, nous avons une preuve plus stricte et fondamentale que cela. Certainement. Nous avons une preuve plus stricte et fondamentale. Maintenant, je crois cela par la foi. Et qu'en est-il si l'ange du Seigneur se tenait ici maintenant en train de tournoyer et que chacun de vos yeux était visualisé pour voir cela? Ce serait bien. Mais regardez, la photo est de loin une preuve plus importante que la regarder avec vos yeux, n'est-ce pas vrai? Parce que vous pourriez avoir une illusion d'optique, mais cette caméra ne prendra pas une illusion d'optique. C'est pas possible parce que c'est un appareil photo et il prendra l'image réelle, ça doit être là pour frapper l'objectif. Voyez? Vous pouvez avoir des illusions d'optique et des choses qui paraissent vraisemblables alors que ce n'est pas le cas. Voyez? Mais lorsque l'image, et ça pourrait être de la psychologie, vous pourriez dire, vous voyez ça là et vous continuez à dire, oui, je crois, et croire tellement jusqu'à ce que vous pensiez réellement le voir alors que ce n'est pas le cas. Voyez? C'est vrai. Et ça, c'est de la psychologie. Mais ça vous emmène dans une pression mentale telle au point où vous imaginez cela. Vous imaginez au point que ça devienne réalité. Si vous imaginez parfois que quelqu'un vous déteste, alors qu'il ne vous déteste pas, mais si vous l'imaginez, et vous continuez à penser, on ne m'aime pas, il ne m'aime pas, et la première chose, vous allez commencer à éviter cette personne qui ne vous a rien fait. Et après un temps, ça devient telle réalité, au point où vous croyez réellement que cette personne ne vous aime pas, et il se pourrait que vous les expulsiez dehors, et qu'ils vous disent quelque chose, par exemple, votre femme, votre mari, un voisin, alors que la personne est absolument innocente de tout mal. C'est parce que vous avez simplement imaginé cela au point où ça est devenu une réalité pour vous. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais en réalité, lorsqu'une photo est prise, ça doit être là. Ainsi, ce soir, nous avons enduré, comme frère Graham l'a exprimé il y a un instant, de grands nombres de hauts et de bas dans l'Église. Nous avons traversé beaucoup de dangers, de labeurs, de pièges. qui ont été attribués différemment, disant que nous étions médiocres, des saints comédiens, et toutes sortes de noms, et ainsi de suite comme cela. Et pourtant, au milieu de tout cela, si ce tabernacle était incendié ce soir et que je mourrais, le reste de vous continuerait aussi ce soir. Notre témoignage est absolument la vérité. Il y a des millions de gens qui le savent, et la preuve scientifique le prouve, pas seulement notre parole, ce que nous avons dit, devant la lumière, devant l'ange dont on a eu sa photo, cela a été témoigné. Depuis que je suis enfant, que cette lumière est venue, il y a des années, beaucoup parmi vous m'en avez entendu parler, des années, je connaissais tout à ce sujet, des années avant que la photo ait été prise, et quand le monde scientifique en a pris la photo, c'était exactement la même chose au sujet duquel nous avions témoigné. Cela montre que vous dites la vérité, c'est absolument la vérité. Ainsi ce soir, je suis si reconnaissant de savoir que le grand Jéhovah Dieu, qui autrefois avait rugi du mont Sinaï, qui autrefois s'est tenu sur la montagne et a enseigné les béatitudes, et a ressuscité les morts, il est ressuscité, il est au milieu de nous ce soir, il est le même, comme il le fut alors, il est aujourd'hui et le sera pour toujours. Et pensez que lui, le Dieu du ciel, s'est humilié pour descendre et s'associer avec des gens comme moi, des pauvres gens, ne possédant pas beaucoup des biens de ce monde, et illettré comme je le suis, et pourtant, il m'a tant aimé qu'il est descendu et m'a sauvé par sa grâce. Je n'ai rien mérité ou ne pouvais rien faire, mais il m'a sauvé, parce qu'avant la fondation du monde, il m'a prédestiné à être sauvé dans sa propre préscience, avant que le monde commence. Et tous les autres hommes qui sont sauvés, il a fait la même chose pour eux. Oh, quelle chose merveilleuse! Quelle merveilleuse opportunité! Et le désir de tout mon cœur est pour cette année, si Dieu veut entendre ma prière, je ne puis peut-être pas être capable de rester jusqu'à minuit, j'ai deux petites filles là, qui somnolent, qui pleurnichent, et il se peut que je les conduise d'abord, premièrement. Et je veux dire ceci, si je n'ai pas la possibilité de rentrer pour témoigner, c'est que je veux remercier chacun de vous pour votre prière que vous avez faite cette année pour moi. Si jamais vous me laissez tomber, je suis fini. C'est comme si vous me souteniez debout dans la prière. C'est ainsi que je persévère dans la bataille. Et je vous aime, comme l'a dit un frère il y a quelques instants, de tout mon cœur. Je n'arrive pas à venir ici comme je le devrais. Je n'arrive pas à voir les gens et leur rendre service comme je le désire, comme c'est le désir de mon cœur. Mais je suis juste un être humain et je suis beaucoup limité à certaines heures et certaines forces et ainsi de suite. Mais avec l'aide de Dieu, s'il m'aide, cette année, je désire que ce soit l'année la plus grande que j'ai jamais eue dans ma vie. J'ai maintenant, par la grâce de Dieu, gagné plus d'un demi-million d'âmes à Christ et j'espère cette année en faire un bon million, Dieu voulant. Naturellement, si Dieu le veut, je vais commencer à nouveau à partir des pays étrangers, aussitôt que nous sommes financièrement capables de le faire, et ainsi de suite, et entrer dans d'autres pays par là où nous pouvons gagner autant de milliers en une fois. Et je sais que le jour est proche. Les heures sont passées, les lumières du soir sont là, les amis. Et je désire faire tout ce que je peux, car c'est l'unique moment que vous et moi serons jamais des êtres mortels. C'est l'unique moment où nous aurons jamais le privilège dans toute l'éternité de gagner quelqu'un à Christ. Faisons-le. Tout ce que nous pouvons faire, mettons chaque heure dans la mesure de notre possibilité à sa gloire. C'est mon intention pour cette année qui vient. Et avec l'aide de Dieu et vos prières, j'y arriverai. Ainsi, priez pour moi. Et maintenant, inclinons la tête un moment pour l'ouverture de la parole. Père, c'est ta parole éternelle posée ici devant moi. Personne dans le ciel ou sur la terre ne fut digne de prendre le livre, d'ouvrir les seaux ou regarder dessus, excepté l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Maintenant, nous l'invoquons. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous prions, ô agneau de Dieu, que tu prennes ces quelques instants maintenant, tandis que nous tournons les pages de ta parole, et que tu puisses l'ouvrir à nos cœurs, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'allais étudier juste un petit moment cet après-midi, quelque chose sur lesquelles parler pour ce soir, mais je ne suis pas rentré à temps pour le faire. Ainsi, ma femme est venue avec Billy et je devais simplement parcourir la Bible et je pensais, oh, parcourir cela, Melchisédek, et j'ai pensé, oh là là, si je continue avec cela, les autres frères n'auraient pas le temps de parler. Ainsi, je garde cela pour dans quelques jours, Dieu voulant, quand nous aurons beaucoup de temps. Et alors, j'ai trouvé le 10e chapitre des Actes qui parle de l'Église primitive. Si quelqu'un le désire, il y a une Bible qui voudrait ouvrir dans les Actes le 10e chapitre pour juste une petite exhortation pendant quelques moments. Et pendant que vous ouvrez, je donnerai une petite avant-première du passé. Dimanche passé, il y a une semaine, je crois, ou c'était le dimanche d'avant, nous avons étudié dans le livre des Actes concernant l'Église primitive. Nous sommes dans Acte 2, je crois, où quand ils laissèrent aller, comment Pierre leur a dit, comment ils devaient se repentir, être baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais faire une petite expression. Est-ce que tout le monde entend bien ici à partir de l'estrade? Écoutez, tout le monde a dit, frère Bill, personne ne vous comprend. Eh bien, je suis peut-être quelque peu étrange, vous savez, mais ce n'est pas mon intention. Mais j'ai mes idées des choses et mes convictions. Et je suis entièrement convaincu que beaucoup de choses qui sont dans les Écritures sont apostoliques, elles sont celles que nous ne réalisons pas en ce jour. Par exemple, une chose, beaucoup de gens ont dit, comment lorsque vous sortez dans ces réunions évangéliques, comment recevez-vous 30 000 personnes à l'autel pour être sauvées? Ils n'ont pas à venir à l'autel pour être sauvés. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce vrai? Je veux juste vous demander quelque chose, et pensez-y. Alors, j'aurai vos lettres la semaine prochaine. Je ne peux pas être un catholique, car le catholique croit que cette parole est inspirée, mais que l'Église est au-dessus de la parole. Je ne peux pas être un protestant, car les protestants prennent simplement autant qu'ils pensent qui est correct et que le reste n'est pas inspiré. Donc, je crois en ce que dit la Bible et que c'est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et afin de croire cela, j'ai dû abandonner ma vie entière et toute ma volonté à cela, croire que c'est la vérité et qu'il n'y a rien d'autre que cela qui soit la vérité. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. C'est simplement comme c'est censé être. Et quiconque retranchera de ce livre et y ajoutera, ça sera retranché. Quiconque retranche ou ajoute, c'est l'entière volonté de Dieu et c'est la révélation de Jésus-Christ aux gens. C'est vrai. Maintenant, en vue de faire cela, je dois croire que la parole de Dieu est absolument la vérité. Et dans Acte 2, 38, quand Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun de vous », ils dirent, « Hommes, frères, que pourrons-nous faire ?» Premièrement, ils voulaient être sauvés. Maintenant, regardez, il parla à des non-croyants. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, « Repentez-vous, chacun de vous ». Que signifie se repentir? Se repentir signifie être désolé pour ce que vous avez fait. Par exemple, qu'en est-il si je me retournais ici et si je frappais mon frère sans cause et que je veuille me repentir pour cela? Je dirais, frère Neville, je suis désolé d'avoir fait ça. Voyez? Eh bien alors, si je dis, je suis désolé et que je fais cela du fond de mon cœur, je suis repentant. Et si je suis désolé pour mes péchés et que je demande à Dieu de me pardonner, je suis repentant, n'est-ce pas vrai? Très bien. Pierre a dit, repentez-vous ou soyez désolés pour vos péchés. Et ensuite, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce vrai? Très bien. Quand Paul et Silas avaient eu une réunion, et ils avaient été jetés en prison, battus, parce qu'ils avaient chassé un mauvais esprit d'une diseuse de Bonaventure, et pendant qu'ils étaient dans la prison de Philippe, philippienne, cette nuit-là, pendant qu'ils chantaient des chants, le Seigneur envoya un tremblement de terre et secoua la prison si fortement que les fers, les entraves tombèrent de leurs mains. Le geôlier tira son épée pour se tuer, et Paul dit, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Et il dit, « Que pouvait-il faire pour être sauvé ?» Il lui a dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Remarquez. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si un homme est désolé pour ses péchés, Je veux y aller doucement afin que cela pénètre vraiment profondément. Si un homme regrette, est désolé pour ses péchés et se repent, étant désolé pour ses péchés, et accepte Jésus-Christ comme son sauveur de ses péchés, et est baptisé dans le nom de Jésus-Christ, Dieu est dans l'obligation à cette minute-là de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. S'il ne le fait pas, il n'a pas gardé sa parole. Est-ce vrai? Maintenant, pourquoi toutes ces réunions d'attente? Pourquoi toutes ces évidences et les choses que nous avons? Maintenant, Jésus a dit, dans Saint Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle qui dure à toujours. Maintenant, si c'est la vie qui dure à toujours, que signifie pour toujours? Ça signifie sans fin. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie sans fin. Voilà pourquoi toutes ces allées et venues, essayer d'être sauvés de toutes ces choses. Alors, si vous avez la vie sans fin, vous ne pouvez pas périr. Votre vie ne le peut, parce que vous avez la vie éternelle. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous veut voir ce mot, le mot grec, Zoé, Z-O-E, le mot grec qui signifie la vie de Dieu. Car si c'est éternel, il y a seulement une chose qui est éternelle et c'est Dieu. Il est d'éternité en éternité, tu es Dieu. Maintenant, s'il est d'éternité en éternité et vous a donné la vie d'éternité en éternité, alors vous aurez à devenir une partie de son être éternel. Est-ce vrai? Et si vous devenez une partie de son être éternel, cela fait de vous un fils ou une fille qui lui appartient, ce qui accomplit exactement ce que l'Écriture dit, nous sommes fils et filles de Dieu. Quand l'avez-vous reçu? Quand vous avez crié? Quand vous êtes allé à l'autel? Quand vous avez parlé en langue? Quand vous avez cru? Nous baptisons tellement de personnes qui ne croient pas. Nous entendons beaucoup qui parlent en langue, mais qui ne croient pas. Nous les avons façonnés à des évidences, formés, nous les avons disposés. Quand vous faites ceci, vous l'avez. Il n'y a rien dans la Bible, nulle part dans la Bible, vous pouvez fixer un homme en disant, parce qu'il a fait ceci, c'est un chrétien. Il est un chrétien parce qu'il croit et sa propre vie porte le fruit de l'Esprit. Peu importe ce qu'il fait, voyez? C'est cela. Maintenant, quand vous croyez, vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Si Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même personne, alors Jésus avait deux pères. Jésus a dit que Dieu était son père et la Bible dit que le Saint-Esprit était son père. Ainsi, les deux étaient la même personne. Et si vous recevez Dieu, la vie éternelle en vous, alors qu'avez-vous reçu? Voilà ce que je veux savoir. Vous saisissez l'idée? Nous sommes tellement pleins de théories. L'Église, parce qu'elle est devenue une dénomination, cette dénomination trouve ceci, on croit en ceci, on a fait une dénomination, et on ne peut plus avancer plus loin. C'est cela, mais l'Église de Dieu avance constamment. Elle s'éloigne et laisse les dénominations se former. Elle s'écarta de Luther, elle s'est écartée des méthodistes, elle s'est écartée des baptistes, des presbytériens, et elle s'est écartée des pentecôtistes, certainement. Parce que la vie éternelle continue d'avancer, vous voyez? Et vous la recevez, pourquoi? Parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a ces deux choses, regardez. Vous êtes soit un incrédule ou un croyant. C'est soit le jour ou la nuit. Est-ce vrai? Maintenant, je ne peux pas dire une grande partie de ceci est la nuit, juste ce que je vois à travers cette fenêtre. Non, la chose entière est la nuit. C'est vrai. Maintenant, comme j'ai souvent dit, fumer des cigarettes, chiquer du tabac, boire du whisky, ce n'est pas péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un incrédule. Et vivre de manière juste, saint, paisible, calme, tranquille, aimable et sociable, et ainsi de suite, ce n'est pas parce que vous êtes un chrétien. Ce sont juste les attributs de la chrétienté. C'est à cause de ce qui est en vous qui produit cela. Et si vous imitez cela, si vous le faites parce que vous êtes censé être un chrétien, vous êtes un hypocrite. C'est vrai. Si votre vie n'est pas une vie de douceur, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui se manifeste, c'est ça qui le fait, qui vous fait sentir de cette manière. Vous traverserez des épreuves, des ennuis, des hauts et des bas, et être incompris, ça n'a rien à voir avec cela. Lorsqu'Israël rétrograda et alla en Égypte, ils étaient rétrogrades, ils n'avaient jamais perdu leur alliance, ils avaient perdu la joie de leur salut. David n'a pas dit « Restitue-moi mon salut », mais il a dit « Rends-moi la joie de mon salut ». Son salut a dû rester le même, mais il a fait ce qu'il ne fallait pas, il a perdu la joie de son salut, voyez-vous ce que je veux dire? Quand avez-vous été sauvé? Quand avez-vous été sanctifié? Quand avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ? Car c'est là que vous avez reçu la vie éternelle. Mais ensuite, à partir de là, vous avez commencé à grandir. Vous avez commencé à grandir. Vous avez grandi à travers la sanctification, à travers le Saint-Esprit, à travers le parler en langue et toutes ces choses. Mais vous avez reçu la vie quand vous avez cru. Mais vous, ce que je veux dire. Et maintenant, certains ont déjà reçu la vie et vous essayez de les emmener à faire quelque chose alors qu'ils n'ont pas encore atteint ce niveau. Et la Pentecôte est arrivée à l'endroit où l'Église arrive maintenant à l'adoption ou au placement des fils. Maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une famille, c'était un fils parce qu'il était né dans la famille. Mon fils est mon fils. Quand il m'est né, et quand l'Église pentecôtiste donna naissance ou a trouvé ce qu'ils ont appelé la naissance, la nouvelle naissance ou l'Église du Saint-Esprit, qu'ils étaient nés dans le royaume de Dieu. Et bien maintenant, dans l'Ancien Testament, maintenant dans Éphésiens au chapitre 1er, il est dit que nous sommes prédestinés à l'adoption des fils. À l'adoption des fils. Regardez cela. L'adoption des fils. Oui, monsieur. Et un homme dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils lui était né dans sa maison, il était un fils lorsqu'il était né. Mais il y avait un tuteur qui élevait cet enfant jusqu'à un certain âge. Alors, si ce tuteur faisait rapport au père que cet enfant était digne, très brave et tout, alors il était adopté dans cette famille. Beaucoup d'entre vous, lecteurs de l'Ancien Testament, connaissaient l'Écriture là-dessus. Il était adopté dans la famille. Mais s'il ne l'était pas, il demeurait toujours un fils, mais il n'était pas adopté. Et donc, s'il était adopté, on l'emmenait dehors dans la rue, on lui mettait une robe, et puis une cérémonie était organisée. Et alors, la signature de ce garçon sur le chèque avait la même signification que celle de son père, exactement la même, car il était adopté dans la pleine communion de la famille. Et Dieu adopta son propre fils. Lorsqu'il a emmené avec Pierre, Jacques et Jean comme témoins, que toute parole soit établie sur la déposition de deux ou trois témoins, ils sont allés là-haut, et Dieu couvrit Christ d'une nuée, le Saint-Esprit couvrit Christ d'une nuée, et son vêtement brillait comme le soleil. Est-ce vrai? Et Dieu lui-même dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En d'autres mots, tout est là. Ce qu'il dit suffit. Et alors, il lui fut donné d'être égal. Naturellement, c'était Dieu. Mais Dieu, dans la chair de Jésus-Christ, se manifestant aux gens. Et là, Dieu adopta son propre Fils. Et alors, quand l'Église pentecôtiste et ces gens ici, dans les derniers jours, ont commencé à voir la nouvelle naissance, étant nés de nouveau, ils pensaient que ça réglait la question. Mon monsieur, vos hauts et vos bas, entrées et sorties, choses semblables, Dieu ne peut pas vous placer comme fils. Mais quand vous demeurez dans le royaume, quand vous demeurez dans l'Évangile, demeurez droit, l'un de ces jours, Dieu vous appellera dehors et vous mettra de côté. Il vous adoptera comme son fils devant les gens et il vous donnera quelque chose qui secouera les nations avec cela. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'adoption dans la famille. Maintenant, ceux-là qui l'avaient suivi, Pierre, Jacques et Jean, nous parlons ce soir de Pierre, une grande vision, comment ces hommes ont vécu en ce jour-là. Et maintenant, d'abord, plus haut ici, au 32e verset du chapitre précédent, le 9e chapitre, et comme Pierre visitait tous les saints, il arriva aussi vers ceux de Lydde, et là il trouva un certain homme appelé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Remarquez cela. Voyez ce qui arriva. Et tous les habitants de Lydde et du Saron, remarquez ici, tous se convertirent au Seigneur parce qu'un homme qui avait la paralysie fut guéri, toute la contrée se convertit au Seigneur car un homme avait été guéri d'une paralysie. Et aujourd'hui, les morts sont ressuscités. Et les gens disent, c'est de la démonologie. C'est de la psychologie, de la télépathie mentale. La personne n'était pas morte pour commencer. Vous voyez la différence? C'est notre indifférence vis-à-vis de Dieu qui a déterminé ce que nous avons aujourd'hui. Nous allons recevoir le jugement divin. Le monde entier est secoué maintenant même sous l'impact des jugements qui approchent. L'un des prédicateurs prendra probablement cela dans quelques instants sur les jugements qui approchent. J'espère qu'ils vont le faire. Les jugements qui approchent. Car le monde entier est prêt, il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez-vous pas que la Russie ne tremble pas aussi? Les États-Unis et les îles tremblent. Qui va jeter la première bombe atomique? À ce moment-là, ça va tout détruire. Une bombe à cobalt, qu'en est-il si cela est libéré? Il ne restera plus une mouche ou un insecte sur la face de la terre. Et dès lors, entre les mains des hommes méchants, pécheurs, destinés à l'enfer, et votre destination de ce séjour terrestre, j'ai dit le séjour terrestre, est confié aux mains des hommes méchants et pécheurs. Il ferait mieux de veiller où est engagée la destination de votre âme. Si elle n'est pas engagée vers le ciel et vers Dieu, tournez-vous ce soir avec tout votre cœur. Et ne laissez pas la vieille année s'écouler sans vous tourner vers Dieu, car votre destination terrestre est déterminée par les mains des hommes méchants, cruels, froids de cœur et athées. Et c'est là qu'est déterminé votre corps. Quoi qu'on veuille faire à propos de cela maintenant, ça vous achèvera. Que Dieu ait pitié. Et Dieu, dans sa tendre miséricorde, envoie des signes, des prodiges, des miracles et tout, et prêche l'Évangile, et les gens s'en détournent constamment. Alors comment pouvez-vous vous attendre à autre chose qu'au jugement? Vous devez le recevoir. Et un homme étant guéri de la paralysie, toute la contrée s'est tournée vers Christ. Alors qu'ici nous avons des rois, des potentats, des monarques, des gens du Congrès et tous les autres, avec leurs afflictions, leurs maladies, et la mort a disparu, et on les voit revenir à nouveau à la vie, et les nations... Mais la nation méprise et ridiculise cela. Oh frère, que nous reste-t-il si ce n'est le jugement? S'il n'y a jamais eu un temps où Dieu a réveillé son peuple, c'est bien aujourd'hui. Pour cette année qui vient, puisse Dieu oindre ses prédicateurs comme des flammes de feu, car vous êtes dans les derniers jours, les temps de la fin. Regardez ici, ce même homme est descendu, il y avait une fille nommée Dabida, Dabita qui signifie Dorcas, qui mourut lorsqu'elle était là-bas. Et Pierre était monté à Joppé. On envoya le chercher, on l'y amena. Il entra là. Elle était étendue, un cadavre. Il fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et il pria. Ayant terminé, il s'avança, la prit par la main et la fit se lever. Et elle fut rétablie. Elle était en vie. Regardez ce qui est arrivé. Et il arriva qu'il, juste avant cela, et cela fut connu dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup ont cru. Et aujourd'hui, on dirait, je doute fort qu'elle ait été morte. Elle était juste dans le coma, ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas à une chose pareille. Voyez-vous, il se débarrasse de tout par vos explications. Quand vous faites ça, avec le surnaturel, Vous vous débarrassez du Dieu même que vous adorez. Certainement. Il est le Dieu surnaturel. Très bien. Maintenant, arrêtez ces apôtres, frères. Ils avaient été avec Jésus. Ils ne se souciaient pas de ce que quiconque disait. On les fait venir là une fois et leur dit que les jours de miracles étaient passés. Et on les a fouettés, les a mis en prison, on les garda toute la nuit. Et le matin suivant, ils furent passés en jugement. Et on vient découvrir qu'ils étaient ignorants et illettrés, mais ils pouvaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus. Ayant été relâchés, ils n'allèrent plus jamais consulter le séminaire. Ils allèrent vers les leurs. Et lorsqu'ils s'assemblèrent, expliquant ce que le Seigneur avait fait, ils s'assemblèrent et ils firent cette prière, « Seigneur !» Et cela s'accomplit ce qu'avait dit le prophète. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» En disant, « Vraiment, donne-nous la puissance en étant dans la main de ton saint enfant Jésus pour guérir les malades, que les signes et les prodiges s'accomplissent. » Et pendant que ces gens priaient d'un commun accord, le bâtiment trembla là où ils étaient assemblés. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'une réunion de prière dans l'unité où nous nous lions tellement ensemble d'un cœur et d'un commun accord et faire une prière comme cela. Alors nous aurons un autre moment de tremblement. Amen. Remarquez, Pierre, autrefois, celui qui avait renié le Seigneur, autrefois, celui qui ne croyait pas en lui, ou qu'il avait renié et qu'il a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Maintenant, il a reçu le Saint-Esprit. Écoutez le prêcher. Et il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, un centurion dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Quel homme! Maintenant, rappelez-vous qu'il était un païen, pas même un juif. Il était un gentil, un centurion, établi sur une centaine d'hommes. Mais c'était un homme craignant Dieu. Dieu a toujours trouvé parmi les gentils des hommes craignant Dieu. Pendant que je marchais aujourd'hui avec un jeune homme, j'ai dit, quand j'arriverai au ciel l'un de ces jours, une chose que je désire faire, c'est d'aller serrer la main à un certain gars. Et il a parlé à propos de celui qu'il voulait voir. Et il voulait lui serrer la main pour différentes choses. Et comment Dieu a béni les gens. Et lorsque Uri, après que David ait pris Bathsheba comme femme, et on l'envoya chercher, on l'amena et elle devint enceinte, et il la fit retourner afin de pouvoir mettre cela sur le dos d'Uri, et il n'était pas un gentil. Il n'était pas un juif, c'était un gentil. C'était un Héthien, un prosélyte à la religion juive. Et il lui dit d'aller chez lui et de rester un moment avec sa charmante et belle femme. Et il a dit, « À Dieu ne plaise que je fasse une chose comme cela pendant que l'arche de Dieu est sur le champ de bataille. » Et il refusa de le faire. « Mes frères, quand j'entrerai dans la gloire, je désire aller voir Uri et lui serrer la main en disant que Dieu soit loué, car ton témoignage a signifié quelque chose pour moi dans mon séjour terrestre. » Je désire aller voir Daniel et lui dire, « Tu sais, Daniel, lorsque tu es là sans crainte devant ces lions, ce témoignage a signifié quelque chose pour moi. » Oui, monsieur. Je veux voir l'apôtre Pierre et dire, « Pierre, cette nuit-là, quand tu étais en prison, et le Seigneur est venu dans une grande lumière et a brillé sur toi. Oh, j'avais toujours admiré cela. Et tu avais commencé à suivre cette lumière et la porte s'ouvrit devant toi et elle te prit jusque dans la rue. Tu avais pensé que tu étais en train de rêver. Quel temps! Il n'y aura pas d'endroit tranquille dans le ciel quand tous les rachetés s'assembleront là. Ce sera quelque chose de merveilleux qui arrivera là-haut quand tous les rachetés y entreront. Et voici ce centurion, la maison de Corneille. Voyez comment Dieu a tellement arrangé cela. Maintenant, Corneille était un homme craignant Dieu. Il priait continuellement et donnait des aumônes au peuple. Vous ne ferez jamais rien qui en vaille la peine que Dieu n'enregistre cela en témoignage pour vous. C'est vrai. Il priait et il donnait des aumônes au peuple. Et c'était un grand homme. Et un jour, pendant qu'il était en prière dans la maison, il vint un ange dans la prière, dans la pièce où il se trouvait. Croyez-vous dans les anges? L'ange entra dans la pièce où il se trouvait et il dit, « Corneille, lève-toi et descends à Joppé et cherche un homme nommé Pierre qui habite dans la maison d'un certain Simon. Et il te dira quoi faire. »
Amen. Maintenant, Pierre, à ce moment-là, avait tellement voyagé qu'il eut faim, il était environ 12 heures. Il monta sur le toit et faisait une petite sieste. Il allait faire une sieste pendant qu'il se trouvait là en attendant qu'on lui apprête le dîner. Et donc, Corneille envoya un soldat et deux fervents hommes, et ils furent conduits à Pierre. Et entre-temps, Dieu, s'il envoie quelqu'un pour vous voir, il fait tous les arrangements à l'avance pour que cette chose arrive. Il a fait les arrangements à l'hôpital hier pour ce bébé qui était couché là dans une condition agonisante, en sorte qu'on n'a pas su ce qui n'allait pas. Et le Saint-Esprit a parlé dans la pièce, a fait les arrangements à l'hôpital pour la guérison de l'enfant avant même que je n'y arrive. Alléluia! En Finlande, quand ce petit garçon était couché là, mort, sur la route, et son père et sa mère qui revenaient des champs en courant et en criant et en claquant les mains, Dieu avait arrangé à l'avance sa résurrection 2 ans avant ce temps. Gloire au Seigneur! Et ce soir, pendant que nous sommes ici dans cette église et que nous endurons les choses comme nous l'avons, Dieu a préarrangé notre résurrection. Un jour glorieux, il viendra. Tout est préarrangé. Et les hommes et les femmes qui pensent à cela, quelquefois, les poètes changent ces chants. « Oh, il y aura une rencontre dans les airs. » Il y a environ 15 ans, j'étais debout sur cette estrade où je me tiens ce soir avec un grand diagramme en train d'enseigner. Et il y avait un petit groupe de pentecôtistes venus de Louisville. Et je n'avais jamais cru à la façon de danser de ces gens. Et il y avait une petite dame qui était montée ici pour jouer du piano et ils allaient chanter un chant spécial. Et il battait aussi sur une boîte de conserve. Et j'étais très critique à l'égard de cela. Je pensais, que va-t-il se passer? Cette femme va chanter un chant spécial. Elle se mit à jouer. La dame devait battre sur la planche et cette petite fille blonde sautait ici. Et elle se mit à danser dans l'esprit. Et moi, j'étais là dans le siège d'un moqueur. Je désire donc que vous regardiez à cela. Et je me mis à parler à mon église au point qu'ils se demandaient tout ce que j'allais faire. Regardez cela. Maintenant, ils sont en train de faire une taverne là de mon église. J'étais assis là, ne sachant pas mieux. Je ne disais rien, mais dans mon cœur, je pensais cela. Et je l'observais là pendant qu'elle dansait. Et la première chose, vous savez, j'ai dit, attendez une minute. Je me demande si cette dame a une écriture pour cela. Et je me mis à penser aux écritures. Et j'ai dit, où la danse a-t-elle jamais été ordonnée? En premier lieu, dans la Bible. C'est vrai. Et je pensais, qu'est-ce qui les faisait danser? J'ai vu que les enfants d'Israël, lorsqu'ils traversèrent la mer Rouge, Myriam regarda en arrière et vit tous les chefs de corvée noyés. Elle ramassa un tambourin et se mit à danser. Et elle battait ce tambourin et courait le long de la rive en dansant. Et les filles d'Israël la suivaient en dansant. Et je pensais, c'est la victoire. J'ai vu David, lorsque sa petite chérie assise là, derrière cet éventail, elle s'est vantée regardant son petit ami, David, qui s'était là. Et puis voici l'arche dont frère Graham a parlé tout à l'heure. Et David l'a vu venir et il s'est mis à danser en tournant et en tournant. Eh bien, elle dit, tu m'embarrasses. Il a dit, si tu n'apprécies pas cela, regarde ceci. Et il s'est mis à nouveau à tournoyer, à tournoyer. Vous savez quoi? Dieu regarda le ciel et a dit, David, tu es un homme selon mon propre cœur. C'est vrai. Et je pensais, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Je n'ai peut-être pas assez de victoire. Et j'avais mon pied méthodiste pendant ce temps-là qui tapotait. Et la première chose que vous savez, Dieu est mon juge. Avant que je me rende compte de ce que je faisais, j'étais là sur le plancher en train de danser avec cette fille. C'est vrai. En tournoyant. Alors j'ai dit, « Oh Dieu, enlève-moi de ce siège de moqueur et que j'examine sensiblement toute chose avant d'exprimer un jugement. » Amen. Dieu fait des choses étranges. Je ne croyais pas un nombre d'absurdité. Je ne crois pas à un tas de pourriture, mais je crois à une parole de Dieu réelle, véritable, remplie de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui se prêche en puissance et en démonstration. Amen. Car c'est cette chose-là qui m'a sauvé, c'est la chose qui m'a conduit jusqu'ici, c'est la chose qui m'a secouru quand le docteur avait dit que je mourrais, c'est la chose qui m'a sauvé à l'heure de ma mort, et c'est la chose qui me ressuscitera, et c'est la chose avec laquelle j'irai au ciel. Si jamais j'y entre, je devais aller par elle, parce que je ne connais rien d'autre que cela, et je ne veux rien connaître d'autre. C'est vrai. Connaître Jésus et lui crucifier, et c'est tout. S'il est crucifié, alors cela crucifie ma chair avec la sienne, et je suis mort aux choses du monde. Bien, amen. Vous savez, je deviens religieux. Je commence à me sentir comme ça. Remarquez. Mais voici. Oh là là, quel temps! Quelle merveilleuse réunion ils avaient! Cornelius dit, allez donc là-bas, demandez celui qui est nommé Pierre. Il dit, il n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Et Pierre là-haut pensait, Seigneur, je ferai une petite sieste juste avant de prendre mon dîner. J'ai tellement faim, je suis fatigué. Et alors, il est entré dans une transe. Les Écritures le disent. Je crois qu'il est tombé dans une transe. Oui. Et à ce moment-là, il a vu une nappe descendre, toute pleine de reptiles. Et une voix dit, lève-toi, tue et mange. Et il a dit, non, Seigneur, je suis un juif. Rien d'impur, le souillé n'est jamais entré dans ma bouche. Et il a dit, n'appelle pas souillé ce que j'ai purifié. Et il dit, lève-toi. Il y a quelqu'un qui t'attend à la porte. Va de l'avant. Ne doute de rien. Suis-le. Amen. Maintenant, Pierre, avec ses manières un petit peu béates, vous savez, il avait, comme que dirait, un certain prestige parmi les gens. S'il devait veiller sur ce qu'il mangeait, c'était un juif. Il avait été élevé un rigoureux presbytérien, vous savez, quelque chose comme cela. Il devait veiller sur ce qu'il faisait à cause de son église. Ainsi, le Seigneur dit, « Suis ces gentils, ne prête aucune attention à ce qui se fait ou quoi que ce soit. » Et lorsqu'il est dans la maison de Corneille, sur le champ, Corneille rassembla tous les siens. Et il raconta comment il avait vu l'ange. Et il dit, « Et donc, Pierre, j'ai envoyé te chercher. » Et lorsque Pierre se mit debout là, il commença à prêcher. Alors que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à prophétiser, à parler en langue. Ils passèrent un temps merveilleux. Et il dit, « Peut-on refuser l'eau ?» Ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Pierre resta quelques jours avec eux. Ça, c'est l'Église apostolique, avançant dans l'Esprit, partout où Dieu ordonnait. Pierre se passa de son dîner. Pierre descendit pour suivre le Seigneur. Et si Dieu peut prendre un homme ou une femme aujourd'hui dans ce tabernacle ou ailleurs, qui ne prêtera aucune attention à ce qui se passe autour de lui, mais qui se soumettra au Seigneur comme une unité individuelle, Dieu conduira le même homme aujourd'hui qu'il le conduit alors. Il prouve qu'il est avec nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une vie humble et soumise. Soumettez-vous, ne vous rétractez pas, ne faites rien, que vous dirigez droit avec le Saint-Esprit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le rapidement. Ne dites pas, « Eh bien, j'attendrai pour découvrir ce qu'est ceci et cela. » Ce que le Saint-Esprit dit de faire, allez le faire. Et si je n'étais pas allé en Finlande quand le Saint-Esprit m'a appelé là? Et si je n'étais pas allé à l'hôpital hier où ce petit bébé était là agonisant? Si je n'étais pas allé? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faites ce que le Saint-Esprit dit de faire. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de nous libérer de toutes nos vieilles petites idées étreignantes et laisser le Saint-Esprit vous être enseigné. Si vous savez ce qui est bien et ce qui est mal, mais ce que vous avez besoin ce soir, c'est d'un gros paquet d'amour de Dieu déversé dans votre cœur, toutes les différences étant enlevées, enterrez cela avec la vieille année, tandis qu'elle s'écoule, et commençons une nouvelle vie, un nouveau commencement. Si vous êtes déjà né dans le royaume de Dieu, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit en vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous libérer de ces choses du monde qui vous retiennent. Dites, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec patience la vie, la course qui est placée devant nous. Hébreux, 12e chapitre. Rejetez les fardeaux. Pourriez-vous imaginer les mages venant voir Jésus? Je prendrai juste un petit drame pour un moment. Je peux voir trois mages. Disons qu'ils étaient trois. Jim, John et George. Disons que c'était leur nom. Ils étaient venus voir Jésus. Et je peux les voir tous s'apprêter pour partir. Nous prendrons ce gars, Jim. C'est un homme, tout à fait. Il court vers sa femme et lui dit, « Ma femme, tu sais quoi? J'ai vu l'étoile, donc je dois m'en aller. » Et ainsi, il alla faire ses bagages pour s'en aller. C'est ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui. Ils essayent de faire leurs bagages pour devenir chrétiens. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, c'est de déferrer les paquets pour devenir un chrétien. Il y a trop de choses qui sont accrochées. Maman, dit-il, maintenant, tu sais quoi? Je ne pourrais pas avancer à moins que je prenne ma table de jeu. Ainsi, il accroche ça sur le chameau. Tu sais, les autres garçons n'apprécieraient pas que j'aille si je n'ai pas avec moi ma table de jeu. Et toutes ces autres vieilles petites choses qui vous retiennent. Vous avez une petite boîte d'égoïsme que vous avez accrochée aussi. Et vous devez accrocher un peu de commérage, un peu de médisance, un peu de ceci. Et vous accrochez tout ça sur le chameau. La première chose que vous voyez, il bondit, le vieux chameau, il dit, « Allons, allons-y !» Et le vieux chameau peut à peine bouger, tellement écrasé qu'il devient presque bancal. et vous tracassez, vous plaignez toujours de votre église que vous fréquentez, peut-être que c'est parce que vous êtes si chargé qu'elle ne peut marcher. Voilà le problème. Vous avez besoin de vous décharger, nettoyer, purifier, vous mettre en ordre. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Remarquez. Voilà ce qu'il y a. Je peux voir les autres aller, avancer. Et la première chose que vous savez, il descendit et regarda à nouveau cette étoile. Et la première chose, il se mit à jeter les tables d'un côté et les colis de l'autre. Il a dit, « Où vas-tu, John? » Et il dit, « Je rejette tout fardeau qui m'enveloppe si facilement, afin que je cours cette course avec patience. Car étroite est la porte et resserré le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. Il y a uniquement de la place que pour vous et Jésus, personne ne peut y aller. Amen. Personne d'autre ne peut passer. » J'ai pu l'entendre dire, « Eh bien, tu oublies ta boussole. » Je n'ai pas besoin de boussole. Tu oublies ton diplôme de séminaire. Tu oublies tes services de baccalauréat et toutes ces choses que tu accroches. Et il dit, écoute, je n'ai plus besoin de boussole. Comment vas-tu aller alors? Il montra du doigt l'étoile et il dit, je suis la voie que Dieu a pourvue. Dieu a pourvu que je suive l'étoile. Elle m'emmènera à Christ. Et la nuit, nous n'avons pas besoin de grandes, longues instructions et tout ceci. Nous voulons suivre la voie pourvue par Dieu. Et la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui est le baptême du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Cela vous mènera à votre destination. Mettez de côté les fardeaux. Mettez de côté toute autre chose. Retournons au jour apostolique. Notre fondement est sûr. Dieu a pourvu pour nous par des signes, des prodiges, des photos et le reste. Il a prouvé qu'il est avec nous. Et autour du monde, ce glorieux, puissant évangile a balayé 1 500 000, les a envoyés dans le royaume de Dieu l'année passée. L'église pentecôtiste a eu plus de succès que toute autre église qu'il y a dans le monde l'année passée. Au nombre de conversions, 1 500 000 enregistrés. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est la plus puissante chose qu'il y ait sur la terre aujourd'hui. Mais le diable les a et a causé une interruption dans le petit groupe-ci, ce petit groupe-là. Ils font des histoires les uns avec les autres. Si jamais ils peuvent oublier leur égoïsme et leurs différences et se joindre ensemble, leurs mains, leurs cœurs, comme un seul, le millénium s'instaurerait. C'est de cela que nous avons besoin ce soir. Nous unir. C'est ce que le Branham Tabernacle a besoin de faire. C'est ce que toutes les églises ont besoin de faire. C'est de s'unir dans une fraternité, comme un individu en Christ Jésus, un bébé nouveau-né, et marcher dans ce sentier étroit et resserré, regardant à l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Regardez ici, je ne dis pas ceci pour élever notre tabernacle et ses doctrines, mais je dis ceci, mes amis, allez voir dans le monde où vous voulez, et nous disons ceci, pas en nous vantant, mais regardez ce que Dieu Tout-Puissant a fait pour cette petite église. Regardez en arrière et voyez, si vous voulez, juste à partir de cette église ici, est parti ce grand réveil qui a balayé le monde entier. C'est vrai. Regardez et voyez si ce n'est pas ainsi. Dieu est avec nous. Dans son amour et sa miséricorde, voyez comment il nous guérit quand nous sourds, malades. Regardez les cas de cancer, aveugles, sourds, muets, il reste qu'il guérit parmi nous, partout. Ensuite, il nous a tant aimés pour descendre et donner une preuve scientifique pour mettre son approbation sur l'Église. Il s'est laissé photographier avec nous. Amen. Où les critiques auront à fermer leur bouche et se retiendront pour dire, nous ne pouvons rien dire de cela. Amen. Je suis si content ce soir que je sois l'un d'entre eux. Je suis si content d'être un chrétien. Je suis si content de vivre ici parmi des gens qui croient dans ce grand mouvement. Je m'attends qu'il y ait des petites différences. Nous sommes des humains. Mais en principe, nous sommes un. Et nous tenons ensemble comme une unité en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis et donné toutes ces merveilleuses choses. Pensez-y. Comment je n'aurais pas pu être ici moi-même ce soir si ça avait été le Seigneur, lorsque le meilleur des docteurs avait dit que je ne pouvais pas y arriver. Mais le docteur en chef est descendu et a dit, « Tout est entre mes mains, et tu y arriveras. » Et j'ai cru en lui. Comment sœur Weaver était assise là? C'était un squelette assis sur une chaise roulante lorsqu'on l'avait amené ici pour être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Et le docteur lui donnait de vivre jusqu'au matin avec un cancer qui la rongeait il y a 7 ou 8 ans. Et la voici ici ce soir avec nous. Combien plus pourrais-je citer ceux qui sont entrés ici par ces portes, qui étaient estropiés, affligés, malades, boiteux, paralytiques et le reste, et qui ont été guéris juste par cette petite porte ici, comme témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Que devrions-nous être? Que devrait être ce Branham Tabernacle? Ça devrait être un phare qui est placé dans l'un des endroits les plus sombres du monde, Jeffersonville. Si jamais il y avait un endroit qui avait besoin de l'Évangile, c'est bien Jeffersonville. C'est vrai. Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Il a dit, viens et vois. C'est vrai. Des endroits les plus sombres. Nous n'avons pas besoin de lumière pendant le jour. Nous avons besoin lorsqu'il fait sombre. C'est là que Dieu envoie la lumière, dans les endroits sombres. C'est très difficile. C'est facile d'aller là où tout se passe paisiblement. Mais là où c'est difficile, les endroits rudes, les endroits accidentés, dois-je être transporté au ciel sur un lit de fleurs et de facilité pendant que les autres ont combattu pour remporter le prix à travers des mers sanglantes? Pendant qu'ici les gens se coupent les cheveux en quatre avec ces différences, 140 000 païens meurent chaque jour et vont rencontrer Jésus, rencontrer un Dieu juste et honnête, sans connaître quelque chose à son sujet. 140 000 meurent chaque jour. Les païens victimes de la mort qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ, qui meurent chaque jour. Et nous disputons à savoir si nous sommes presbytériens ou méthodistes. Quelle disgrâce, quelle honte! Nous avons besoin d'une vision. Non pas simplement regarder juste ici, mais regarder là, au bout de la route, pas ici, au bout de votre nez. Si je me mets à penser aujourd'hui ceci, autre chose. Mais je vis pour l'éternité, pour quelque chose là-bas, quelque chose que Dieu a ordonné et que je dois aller rencontrer un jour. J'ai pris trop de temps. Encore 10 minutes. Avec la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, je lui ai demandé quelque chose il y a 2 ans et je lui ai redemandé maintes fois. Pendant 15 ans, et finalement, il me l'a donné. Et je continuerai à frapper à sa porte et je serai en vie l'année prochaine. S'il ne me la donne pas cette année, voyez, cette chose que je lui ai demandé, c'est pour sa gloire, quelque chose que je pourrais faire pour lui là-bas. Il permettra ceci pour moi, alors je pourrai là et gagner des âmes pour lui, un peu mieux, pour être un peu plus affermi en chemin. Et je prie qu'il veuille le faire, c'est ma prière. Et mon témoignage pour vous est que si vous voulez simplement prier pour moi et m'élever devant lui dans la prière, alors je pourrai continuer. Et comment puis-je faire une chose, peu importe ce qui arriverait, si je n'avais personne pour me croire? Vous êtes autant concerné que je le suis, ou que quiconque l'est. Peu importe ce que nous faisons, que ce soit prêché, ce que nous disons, s'il n'y a personne pour croire, alors rien ne peut être fait. C'est vrai. Tout est échec. Rien ne peut être fait, excepté que nous assemblions et que nous croyons l'un en l'autre. Je crois en vous et vous croyez en moi. Et ensemble, nous croyons en Dieu. Et nous croyons que son esprit nous conduira. Maintenant, frère Funk, allez-vous venir? Vous tenez le bébé maintenant. C'est votre excuse, frère Woods. Je pense que vous êtes le suivant. Frère Woods dit frère Jackson. Très bien, et lui a adopté frère Jackson. Alors je pense que frère Jackson sera le suivant. Que le Seigneur bénisse notre frère Jackson, qui est le suivant. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Très bien. Sœur Gertie, venez un instant. Je désire que vous chantiez un chant avec moi. Et tout le monde va chanter. Je vais essayer. Je suis enroué comme c'est pas possible. J'ai un gros rhume et quelque chose à la tête. Mais je désire que vous m'aidiez à chanter ce bon vieux chant. Donnez-moi le ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais donnez-moi une note, car je veux chanter du ruisselle de sang, cet évangile que je prêche, qui ruisselle de sang. Ne croyez-vous pas? Très bien. Tous ensemble maintenant. Le premier à mourir pour ce plan du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste. Mais il mourut comme un homme. Ensuite vint le Seigneur Jésus. Ils le crucifièrent. Il prêcha que l'Esprit sauverait les hommes du péché. Il continue à ruisseler de sang, oui. Il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. le sang des disciples qui moururent pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Ensuite, ils ont lapidé Étienne. Il prêcha contre le péché. Il les rendit si furieux qu'ils le lapidèrent. Mais il mourut dans l'esprit et il rendit l'âme. Et il alla rejoindre les autres, cet hôte qui donne la vie. Il ruisselle de sang. Oui, il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Le sang des disciples qui moururent pour la vérité. Il y a Pierre et Paul et Jean le divin. Ils donnèrent leur vie afin que cet évangile puisse briller. Ils mêlèrent leur sang comme les prophètes d'autrefois, afin que la vraie parole de Dieu puisse sincèrement être annoncée. Il continue à ruisseler de sang, oui, il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Le sang des disciples qui moururent pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit continue à ruisseler de sang. Écoutez ceci maintenant. Il y a des âmes sous l'autel qui crient combien de temps pour que le Seigneur punisse ceux qui ont fait le mal. Mais il y en aura encore plus qui donneront le sang de leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot cramoisi. Levons-nous maintenant. Il ruisselle de sang. Oui. Il ruisselle de sang. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle de sang. Le sang des disciples qui sont morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. N'êtes-vous pas content d'être l'un d'entre eux? Quel genre d'évangile? Le même évangile qui leur fut donné. Les mêmes signes, les mêmes prodiges qui suivent, la même colonne de feu, le même Seigneur Jésus, la même guérison des malades, la même puissance de l'Esprit. Tout qui continue d'avancer et les mêmes persécutions qui arrivent. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Tous ensemble maintenant, tournez-vous et serrez la main de quelqu'un et dites que le Seigneur soit loué. Combien j'aime Jésus, parce qu'il m'a aimé le premier. Chantons un peu plus fort. Levez vos mains. Notre Père céleste, nous te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus-Christ, pour sa puissance, pour son amour, et de savoir que dans le grand et noble jour dans lequel nous vivons, quand les prophètes d'autrefois virent à l'avance ce jour et donnèrent des commandements à son sujet, disant comment les hommes seraient emportés, hautains, amoureux du plaisir plus que de Dieu, ayant une forme de piété, mais renieraient ce qui en fait la force. Quand il a dit qu'il y aurait des moqueurs dans les derniers jours, et ils se moqueraient et ridiculiseraient, nous vivons là-dedans, Père. Il y aurait des raz-de-marée ébranlant les côtes et les bords de la mer, toutes ces grandes prophéties qui s'accomplissent, et des grands signes et des prodiges qui apparaissent dans les cieux, tels que des soucoupes volantes et le reste. À cause de ces signes, le monde serait dans l'effroi et tremblerait. Cela provoquerait des tremblements de terre en divers lieux et toutes sortes de choses, perplexité de temps et la détresse parmi les nations. Et il a dit en ce jour-là, alors Israël fleurirait. Alléluia. Cette vieille étoile de David à six branches est en train de flotter au-dessus de Jérusalem ce soir pour la première fois depuis 2500 ans. Les nations se disloquent. Le figuier bourgeonne. Tous les autres arbres bourgeonnent. Les méchants bourgeonnent. Le romanisme bourgeonne. Le communisme bourgeonne. Et ton Église produit des bourgeons. C'est le printemps qui arrive. Ô grand maître de la vie, lève-toi avec la guérison sous tes ailes, Seigneur, et donne à tes serviteurs tous les pouvoirs et les signes pour étendre la main de ton saint enfant Jésus pour accomplir des miracles et des signes et pour prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Accorde-le, Seigneur. Bénis cette petite Église, bénis son pasteur, Seigneur, notre frère bien-aimé. Bénis tous ceux qui sont associés ici avec nous, tous ceux qui invoquent ton nom partout autour du monde. Aide cette année qui vient. Aide, Seigneur, aide-nous à être meilleurs pour ton service. Éloigne du milieu de nous la maladie et oins-nous du Saint-Esprit. Éloigne de nous l'envie, la lutte, la jalousie et tout ce qui est impie et qu'on dise de nous que nous sommes tes enfants. Une ville qui est bâtie sur une colline qui ne peut être cachée. Accorde-le, Père. Bénis-nous et pardonne-nous notre passé et puissions-nous dire, comme Paul, oubliant les choses du passé, nous pressons le pas vers la marque de la vocation céleste en Christ. Seigneur, envoie-moi où tu veux. Je suis prêt à partir. Donne tes ordres quand tu veux. Pardonne-nous, Seigneur, et sanctifie cette Église pour ton honneur et ta gloire et les gens qui y sont, car nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous asseoir maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez ça? Oh là là! Il y en a un que je veux rencontrer par-dessus tout, c'est Jésus. Ça vous fait sentir si réjoui, nettoyé, pur. Est-ce que vous sentez ainsi? Tout purifié. Oh, aimez-le simplement. Vous avez entendu parler de Moïse dans les roseaux et de David sans crainte, avec sa fronde. L'histoire de Joseph qui avait des songes et de Daniel dans la fosse aux lions. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Et j'ai envie de les rencontrer tous, je vous le dis. Et Dieu nous laissera les rencontrer dans cette réunion dans les airs. Il y aura une rencontre dans les airs. Oh, je veux simplement être là, et pas vous. Combien disent, par la grâce de Dieu, je veux être là. Par la grâce de Dieu. Heureuse et nouvelle année à vous tous. Que Dieu vous bénisse.